Parole d'écriture, émission animée par Michel Bernard. Chers auditeurs, bonjour. Pour cette dernière émission, 2014-2015, de Parole d'écriture, nous allons avant tout parler de Patrick Modiano, prix Nobel de littérature, le 15e, la France en a eu 15, c'est le dernier, et nous allons pouvoir en parler avec Agnès Besson, qui a déjà participé à cette émission, éminente philosophe, et qui, en l'occurrence, va nous raconter énormément de choses sur Patrick Modiano. Alors Agnès, bonjour.
Bonjour Michel.
Alors, ce soir, nous allons entrer dans Modiano, et nous allons entrer dans Modiano en commençant par écouter, tout simplement, son discours à Stockholm, en décembre 2014. Un discours absolument extraordinaire, mais nous allons d'abord écouter la voix de Patrick Modiano, et puis avec vous, Agnès, nous allons venir sur ce discours.
Je voudrais vous dire tout simplement combien je suis heureux d'être parmi vous et combien je suis ému de l'honneur que vous m'avez fait en me décernant ce prix Nobel de littérature. C'est la première fois que je dois prononcer un discours devant une si nombreuse assemblée et j'en éprouve une certaine appréhension. On serait tenté de croire que, pour un écrivain, il est naturel et facile de se livrer à cet exercice. Mais un écrivain, ou tout au moins un romancier, a souvent des rapports difficiles avec la parole. Et si l'on se rappelle cette distinction scolaire entre l'écrit et l'oral, un romancier est plus doué pour l'écrit que pour l'oral. Il a l'habitude de se taire et s'il veut se pénétrer d'une atmosphère, il doit se fondre dans la foule, il écoute les conversations sans en avoir l'air et s'il intervient dans celle-ci, c'est toujours pour poser quelques questions discrètes afin de mieux comprendre les femmes et les hommes qui l'entourent. Il a une parole hésitante à cause de son habitude de raturer ses écrits. Bien sûr, après de multiples ratures, son style peut paraître limpide, mais quand il prend la parole, il n'a plus la ressource de corriger ses hésitations. Et puis, j'appartiens à une génération où on ne laissait pas parler les enfants, sauf en certaines occasions, sont assez rares et s'ils en demandaient la permission. Mais on ne les écoutait pas, si bien que souvent on leur coupait la parole. Voilà ce qui explique la difficulté d'élocution de certains d'entre nous, tantôt hésitants, tantôt trop rapides, comme s'ils craignaient à chaque instant d'être interrompus. D'où sans doute ce désir d'écrire qui m'a pris, comme beaucoup d'autres, au sortir de l'enfance. Vous espérez que les adultes vous liront, ils seront obligés ainsi de vous écouter sans vous interrompre et ils sauront une fois pour toutes ce que vous avez sur le cœur.
Agnès, c'est une voix impressionnante et ce discours est tout à fait extraordinaire.
Évidemment. Alors il y a cette élocution difficile, hein, cette articulation extrêmement appliquée. Hein, on sent que c'est quelqu'un pour qui la prise de parole en public doit être extrêmement douloureuse. C'est vrai qu'on a tas de souvenirs de Modiano à la télévision. Moi, je crois que le premier souvenir que j'ai de lui, il date de 1985. Donc j'étais une adolescente et il s'agissait d'une émission d'Apostrophe avec Simone Signoret et j'en ai revu un extrait récemment sur le site de l'INA. Alors là, c'est vrai qu'on a Modiano avec cette ces phrases suspendues, cette parole empêchée. Et quand je l'ai entendu, enfin surtout j'ai essentiellement lu le discours de Stockholm. J'ai trouvé ce texte est merveilleux. Il est vraiment à saluer. Et puis voilà, il fait face à cette difficulté. Et ce qui est très très étonnant, c'est ce qu'il dit à propos de la parole. C'est qu'au fond, on a l'habitude de dire que les écrits restent et les paroles s'envolent. Enfin, la parole serait profondément inconséquente au fond. Et il dit non, justement. L'écriture permet de raturer, de reprendre incessamment, de corriger ses hésitations. Alors que face à la parole, il le dit profondément, intimement, il n'a plus aucune ressource. Il y a une espèce de transparence de la parole à elle-même. Et voilà, ce texte est très beau. Et puis, il renvoie aussi à une époque où on ne laissait pas parler les enfants, comme il le dit. Et il fallait donc parfois se dépêcher, hein, je suppose, quand on était enfant et qu'on souhaitait un tant soit peu s'exprimer, eh bien, rapidement trouver une petite fenêtre, un petit espace pour dire ce qu'on avait, hein, c'est comme ça qu'il termine, ce que vous avez sur le cœur, hein, toutes ces choses qu'on avait sur le cœur, voilà. Donc c'est très émouvant de retrouver.
Agnès, c'est le 15e prix Nobel, un seul n'avait pas voulu le recevoir, c'était Sartre.
Oui.
Le 15e, on a l'impression parfois que Patrick Modiano est méconnu et relativement peu aimé. Qu'en pensez-vous ?
Oui, alors c'est vrai que quand il a obtenu le Nobel à l'automne dernier, je crois qu'une partie de la presse anglo-saxonne, je me souviens d'un article dans The Guardian qui disait que c'était étonnant finalement que cet auteur français plutôt méconnu à l'étranger ait pu obtenir le prix. Et puis je crois que la presse anglo-saxonne pariait sur Philip Roth. Bon voilà, Modiano a un lectorat extrêmement fidèle. J'en fais partie, mais je ne suis pas la seule. Je sais que, enfin, il est lu au long cours. En même temps, ça n'est pas une œuvre éclatante. Je crois qu'on est sur un autre registre. Et je pensais à Leclésio. Je me dis, on a avancé la même génération et on les a souvent d'ailleurs comparés, voire opposés. On a chez Leclésio, cet homme très bien, très bâti, très très solide comme ça, et c'est cette langue qui est à son image. Et au contraire, on a chez Modiano quelque chose de beaucoup plus incertain, ce grand corps gracile et en même temps extrêmement gauche, maladroit. Enfin, il y a quelque chose que dit le corps de Modiano, me semble-t-il.
Une enfance absolument inimaginable, enfin. Il a connu les malheurs, il n'a pas connu la famille au sens où on l'entend aujourd'hui. Enfin, je crois que ça marque profondément son œuvre.
Ah oui. Une famille étonnante, un couple déjà, un couple parental extrêmement singulier. Donc sa mère, pour situer un petit peu les choses, sa mère est une actrice belge originaire d'Anvers, Louisa Kolpein, qui travaillera pendant l'occupation, qui fera du doublage pour la Continentale. Hein, donc elle travaillera pour les Allemands. Elle est dans ce Paris de l'occupation et elle va rencontrer en 1942 le père de Modiano, Albert Modiano, qui est d'origine juive et qui lui, sous une identité d'emprunt, va grâce au marché noir s'enrichir. Et ces circonstances-là vont plus que marquer Modiano. Je crois que c'est le cœur même de son œuvre. Enfin, c'est au sens le plus fort. Il s'inscrit. Enfin, il a eu l'occasion à plusieurs reprises, hein, d'ailleurs, de s'exprimer sur son rapport à cette période, son rapport à l'occupation. Il a des phrases extrêmement extrêmement fortes. Je suis, en faisant quelques recherches là ces jours derniers, Internet est bien commode, je suis tombée sur une émission de 1969 qu'il avait faite pour la télé suisse romande, la TSR. Et donc il est tout jeune, il a 24 ans et c'est au moment de la sortie de son deuxième livre, la Ronde de nuit. Et il revient justement sur euh, sur cette période, sur l'occupation, et il parle d'une véritable nuit originelle. Hein. J'ai retrouvé cela. Alors il dit que il l'écrit d'ailleurs, il l'écrit entre autres dans son autobiographie. On y reviendra, un pédigré. Mais il dit que voilà, c'est à la suite de ces rencontres, souvent sans lendemain, hein, qui étaient produites par cette période trouble de la guerre, et parfois de ces mauvaises rencontres que des enfants sont nés plus tard. Voilà pourquoi le Paris de l'occupation a toujours été pour moi comme une nuit originelle. Sans lui, je ne serais jamais née. Ce Paris-là n'a cessé de me hanter et sa lumière voilée baigne parfois mes livres. Voilà. Donc c'est un enfant du hasard et qui connaîtra vraisemblablement une grande, grande misère affective. Il dira de sa mère qu'elle était une jolie fille au cœur sec. Et voilà, donc ses parents se sépareront assez rapidement d'ailleurs, et puis il connaîtra aussi un drame intime. Il perdra son frère cadet, Rudy, qui mourra à l'âge de 10 ans. Et donc voilà, il sera ballotté de pension de famille, enfin de pensionnat plutôt, en famille, alors plus ou moins amis de ses parents, etc. Et il est la plupart du temps loin d'eux. Et il dit d'ailleurs, il le rappelle dans son discours du Nobel, il me confiait à des amis dont je ne savais rien, dans des lieux et des maisons qui se succédaient. Et sur le moment, dit-il, un enfant ne s'étonne de rien, et même s'il se trouve dans des situations insolites, cela lui semble parfaitement naturel. Et c'est donc beaucoup plus tard qu'il va revenir sur cette enfance et qu'effectivement il va en faire une matière littéraire, un matériau romanesque.
Alors effectivement, on va découvrir l'œuvre de Modiano avec vous, Agnès. De Paris, il dit que sous l'occupation, c'est une ville qui semblait absente d'elle-même, et c'est très fort dans son œuvre, n'est-ce pas?
Oui.
Il dit aussi, plusieurs fois, il compare l'écrit et la musique, et à un moment donné, il dit « J'ai toujours envié les musiciens qui me semblaient pratiquer un art supérieur au roman. » Alors, nous allons écouter une petite séquence de jazz pour marquer une pause, et nous allons revenir sur l'œuvre de Modiano.
Le Paris des années 50.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free.
Alors, Patrick Modiano a été traduit en 36 langues, ce qui n'est déjà quand même pas mal. Mmh. Alors, Agnès, qu'est-ce qu'on peut retirer comme grande idée force de la pensée de Modiano et de son œuvre à ce jour?
Alors, je repensais à un critique littéraire qu'on lit plus beaucoup, je pense, de l'entre-deux-guerres, Charles Moron, qui avait écrit un livre magnifique qui s'intitule « Des métaphores obsédantes au mythe personnel ». Et l'analyse que faisait Moron des œuvres de Baudelaire, Nerval, etc. Je me souviens de cela. C'est un souvenir déjà relativement ancien. L'idée de thème obsédant. Je crois que ce qui fait l'œuvre de Modiano, c'est profondément d'avoir réussi à tisser, tisser ces pauvres fils au départ, et d'avoir réussi à tenir, à réalimenter sans arrêt cet imaginaire qui est, comme on vient de le dire, profondément lié au Paris de l'occupation, et de parvenir à investir ce thème, à le renouveler. Surtout, c'est ça qui est très très étonnant chez Modiano. Quand un pédigré sort, on peut se dire bon, c'est son autobiographie. On apprend peut-être pas grand chose au fond. Mais chez Modiano, les faits n'ont les faits n'ont pas grande importance. Et d'ailleurs, parler de biographie pour Modiano, je ne sais pas si ça rime à grand chose, pour dire les choses un peu crûment. Et d'ailleurs, je pense que je pense que Modiano le récuserait en partie, ce terme de biographie. Et d'ailleurs, je suis tombée sur un de ses textes là récemment, dans lequel il dit qu'il hésite toujours lui-même à lire la biographie d'un auteur. A fortiori un auteur qu'il admire, en fait, parce qu'il trouve que les biographes, et je ne suis pas loin de partager son avis, s'attachent à des petits détails, des témoignages, etc. Bon, et il dit, il a cette image assez évocatrice. Il dit, au fond, c'est comme si on avait des grésillements, hein, quand on écoute, ben voilà, une émission de radio comme la nôtre, par exemple, qui rendent finalement assez inaudibles les musiques ou les voix. Ça, le discours biographique est souvent un discours qui vient parasiter l'œuvre et le rapport que le lecteur a avec l'auteur par l'intermédiaire du livre, quoi. Et au fond, voilà, on peut le penser. Il n'empêche que, Modiano dit aussi que parfois, on découvre un événement, et notamment lié à l'enfance, et on perçoit à quel point c'est la matrice de l'œuvre qui est là, et qui nous permet d'avoir une plus claire conscience, en fait, de celle-ci. Et je crois que c'est ça, quand même. C'est-à-dire trouver ce juste milieu, ce juste rapport, en fait, hein, entre une biographie toujours très factuelle. Elles sont souvent encombrées d'anecdotes, de témoignages, et puis, au contraire, une approche sensible de la vie de l'auteur, qui fait que on peut avoir une perspective, une mise en perspective assez subjective, au fond, retenir ça, enfin, jouer d'éclairages multiples. Et ça, je crois que c'est très important.
Est-ce que vous seriez d'accord, Agnès, avec l'argument qui a fondé son prix, c'est-à-dire que lors du prix Nobel, on a dit qu'on lui rendait hommage pour l'art de la mémoire avec lequel il a évoqué les destinées humaines les plus insaisissables et dévoilé le monde de l'occupation?
Oui, parce que ça, il faut le dire, l'Académie du Nobel, quand elle a décerné son prix à Modiano, a fait un communiqué dans lequel elle dit clairement saluer l'œuvre de Modiano pour l'art de la mémoire avec lequel il a évoqué les destinées humaines et dévoilé le monde de l'occupation. C'est vraiment les termes que vous venez de donner.
Et son secrétaire général de cette académie rajoutait qu'il qualifiait un peu l'auteur de Marcel Proust de notre temps. Qu'en pensez-vous ?
Oui, on a déjà. Alors, si on évoque Marcel Proust, on pourrait évoquer, mais on y reviendra peut-être après la pause, ce sera intéressant de s'y attarder un peu. On pourrait évoquer la figure d'Emmanuel Berle. Je crois que c'est Emmanuel Berle qui fait le lien entre Proust et Modiano.
Donc, on va reprendre ça dans la deuxième partie. Et vous nous direz à ce moment-là, Agnès, quel est l'itinéraire de lecture que vous conseillez à un adolescent ou à un senior qui a envie de découvrir Modiano et qui ne l'a pas encore découvert, parce que je crois que ça sera intéressant. Alors, chers auditeurs, vous n'allez pas quitter l'antenne. Nous allons nous retrouver dans un instant, après les informations, pour découvrir Patrick Modiano. Et je vous rappelle que sur Google, on retrouve énormément de documents, dont cette conférence absolument remarquable à Stockholm, dont on a
le site de l'INA. Le site de l'INA,
qui a énormément d'archives. Oui, et c'est là où on voit les difficultés de Patrick Modiano à parler en public. Mais tout cela, je vous laisse le découvrir en marge de l'émission. À tout de suite. Poursuivons cette émission sur Patrick Modiano et Agnès, reprenons notre échange là où nous l'avons arrêté, à propos de Berle et de Modiano.
Oui, d'Emmanuel Berle qui... Alors, Modiano consacrera à Emmanuel Berle un ouvrage, un livre d'entretien plus précisément, qui paraîtra chez Gallimard en 76 et qui s'intitule Interrogatoire. Alors bon, il faut savoir que Berle est un personnage, ce n'est pas un personnage sulfureux, je crois que ce serait un terme qui ne conviendrait pas à ce que Berle a, enfin là, disons que pour être plus clair, Berle est connu malheureusement comme celui qui aura été l'inspirateur, enfin le rédacteur des deux discours de la défaite, des deux discours de Pétain, les discours du 23 et 25 juin 40. Et on dira de Berle, et Berle lui-même se qualifiera ironiquement comme cela, on dira de lui qu'il aura été le nègre juif du maréchal Pétain. Et donc il y a cette tache noire, cette tache indélébile qui va beaucoup marquer malheureusement la postérité de et Berle aura du mal à échapper à ça, alors que c'est un homme absolument délicieux, qu'il s'est très très passagèrement fourvoyé. En fait, c'est un pacifiste avant tout. Et justement, Modiano va rappeler dans Interrogatoire qu'au fond, les deux discours de Pétain de juin 40 avaient été applaudis par 99% des Français, ce sont les termes de Modiano, hein, qui les auront écoutés avec des larmes dans les yeux. Et voilà. Et en octobre, poursuit Modiano, eh bien, Berle devra se faire recenser comme juif, et puis il partira, il quittera Paris pour le Sud-Ouest. Donc voilà, et Berle est un personnage extrêmement attachant, un essayiste, un écrivain un petit peu inclassable, comme l'entre-deux-guerres a pu en produire, qui est quasiment oublié maintenant. Il a été, pour la petite histoire, il a été l'époux de la chanteuse Mireille. Et donc voilà, et Berle et Modiano ont noué une véritable amitié. Et donc Proust, nous évoquions Proust à l'instant, Proust est un petit peu la médiation entre Berle et Modiano, puisque Emmanuel Berle était très très proche de Marcel Proust, et que le seul ouvrage peut-être de Berle qui a vraiment vraiment connu une véritable notoriété, un véritable succès, c'est Sylvia. Et c'est dans Sylvia que Berle évoque la figure de Proust dans un lieu qui m'est cher, puisqu'il s'agit d'Évian, sur les bords du Léman, où Proust séjournait régulièrement à l'hôtel Splendide. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu pour situer l'époque. Hein. Bon, par ailleurs, on a oublié de dire tout à l'heure, mais il faut peut-être le rappeler, cette obsession, l'occupation a conduit Modiano à participer à l'écriture du scénario de Lacombe Lucien, le film de Louis Malle sur un milicien, un jeune milicien qui va comme ça, là encore, ne pas comprendre les enjeux véritables. Et se trouver, enfin, c'est un salaud ordinaire, hein, à collaborer un peu malgré lui, un peu par faiblesse. Et donc voilà. Tout ça pour dire que, effectivement, vous évoquiez la figure de Proust, ça c'est autre chose, hein, elle est là par le biais de sa relation avec Berle, mais pas seulement, aussi par l'écriture évidemment, et la question de la mémoire.
Alors, il y a la question de la mémoire, il y a la question inévitablement de la temporalité, bien sûr.
Oui.
Et plus largement, il y a chez Modiano, enfin, la question de la ville, la présence de la ville, qui est quand même un thème majeur.
Oui, il y a ces deux éléments, effectivement. Alors, pour en revenir à Proust, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude d'associer, en partie Modiano, de trouver chez Modiano une petite musique proustienne, etc. Bon, je crois, enfin, me semble-t-il, en y réfléchissant un peu, je pense qu'il y a ce rapport à la réminiscence, ce rapport au souvenir, évidemment. En revanche, il y a chez Proust une mémoire qui s'ordonne. Il y a des pans de souvenirs entiers qui sont ordonnés, qui sont, il y a une chronologie, on a rien de tout cela chez Modiano. On a la mémoire, une mémoire qui peut-être est la mémoire de notre temps, hein. Je pense que la mémoire proustienne est une mémoire qui correspond à son époque. On a chez Modiano, au contraire, une mémoire trouée, une mémoire fragmentée. On évoquait le jazz tout à l'heure. C'est quelque chose, effectivement, de beaucoup plus disparate, voire je sais pas comment je pourrais le qualifier. En tout cas, en plus, c'est une intuition parmi d'autres, hein. Je vous la livre de manière un peu brute, mais je crois qu'il y a ça. C'est vraiment la réminiscence, elle est trouée, elle advient comme ça par de hasard. On ne convoque pas la mémoire chez Modiano. Chez Proust, elle advient aussi un peu toute seule, mais de manière quand même beaucoup plus... le qualificatif qui me viendrait, c'est ordonnée, de manière beaucoup plus ordonnée. Et puis, face à cette temporalité comme ça, complètement incertaine, qu'on a à l'œuvre dans le livre de Modiano dont je souhaitais vous parler quand même un peu ce soir, qui est « Dimanche d'août », puisque c'est un roman niçois, hein, donc on le lit in situ. Dans Dimanche d'août, on a ça, c'est-à-dire on a ces réminiscences comme ça que j'évoquais à l'instant, qui viennent, qui trouvent le récit, on comprend pas bien, on est malmené, on a des flashbacks très cinématographiques d'ailleurs. Hein. Bon, et on ne sait pas très bien sur quel pied danser au niveau de la temporalité, et au contraire. Il y a une topographie, il y a une précision cartographique qui vient contrebalancer cela. Il y a un réalisme cartographique qui est très étonnant. Et je crois, là encore, que c'est à mon avis un des grands thèmes de l'œuvre de Modiano. Et il dit, d'ailleurs, hein, très très clairement son goût des villes. Hein, et bon, il le dit à propos de Paris, mais pas seulement. Et dans un article, dans une interview à Libération, il disait que, justement, lui est le romancier de Paris, mais il aimerait bien trouver des romanciers qui s'attellent dorénavant à l'hypermodernité, en quelque sorte, des grandes mégalopoles mondiales. Hein. Donc, trouver ce même rapport profondément intime à la cartographie. Il faut savoir que Modiano trouvait dans les annuaires téléphoniques dans les années 70 son inspiration. Il le dit clairement, ces vieux annuaires dans lesquels on avait le nom, le prénom, l'adresse la plus précise possible. Et voilà, et c'était pour lui une grande fenêtre vers l'imaginaire romanesque, en fait, ces annuaires.
Alors, pour ceux qui n'ont pas encore lu Modiano, quel conseil donnez-vous, Agnès?
Alors, pour les Niçois, les Azurés, au sens très large du terme, nous sommes à Grasse, nous, en ce moment. Donc, je conseillerais Dimanche d'août, hein, parce qu'on retrouve chez Modiano, là, Nice vient cristalliser toutes ses obsessions, en fait, et c'est, on pourrait faire le parcours. Hein, il évoque des lieux bien connus. De la promenade des Anglais, et puis il évoque un château qu'il nomme villa dans son texte, que je connais bien, le château Azur, où vécut un Américain répondant au nom de Virgil Neal, un type complètement extravagant. Et je connais bien ce lieu, j'ai une amie qui y vit, et elle m'avait très gentiment logée quand j'étais étudiante, il y a de nombreuses années maintenant de cela. Et j'ai lu Dimanche d'août, j'ai découvert Dimanche d'août, alors vraiment, vraiment in situ, hein, dans cette demeure qui surplombe la Guéraud, qui surplombe Nice, et qui est une sorte de copie d'Azel Rideau, enfin c'est un truc extrêmement, extrêmement improbable, comme ça, complètement baroque. Et voilà. Mais bon, Modiano, cela étant, par rapport à Virgil Neal qu'il évoque dans son roman Dimanche d'août, a pris beaucoup de liberté, là encore, avec la biographie et la réalité des faits. Hein. Mais on ne lui en veut pas, c'est sa patte.
Un autre livre?
Alors, bon, après, évidemment, La place de l'étoile, c'est le premier. Il est extrêmement jeune. Il a quoi, 23, 24 ans. Hein. J'aime beaucoup Dora Bruder. D'ailleurs, je crois qu'une petite ruelle, hein, enfin une ruelle, non, pas une ruelle, une petite rue à Montmartre vient d'être baptisée de ce nom-là. C'est une enquête sur une jeune fille juive, hein, déportée. Très très beau texte. Un pédigré, hein, c'est son autobiographie, paru il y a une dizaine d'années de mémoire. Très très beau texte, vraiment. J'aime beaucoup Civilatrice, mais il y en a beaucoup, beaucoup. Je crois qu'il faut vraiment redécouvrir son œuvre. Je pense qu'elle
en a vraiment le coup. Merci Agnès de cette découverte. Et encore une fois, je pense qu'on est bien d'accord. Sur Google, il y a énormément de documents. Oui. Et l'Institut National Audiovisuel comporte beaucoup d'apports pour découvrir Modiano, parlant, bafouillant parfois. Et puis ses textes, une lecture à la fois écrite, orale et visible.
Oui, et on pourrait encourager aussi nos auditeurs à lire Sylvia d'Emmanuel Berle. Je trouve très dommageable que cet auteur ait complètement disparu des mémoires. C'est un très très beau texte. Et si on est proustien, a fortiori, il faut absolument lire Sylvia.
Je pense que nos auditeurs auront entendu. Alors, pour terminer cette séquence, avant de d'en engager une autre, qui va être la dernière de cette émission. Trois citations de Patrick Modiano, qui, moi, personnellement, m'ont impressionné. « Je crois n'avoir jamais ressenti, dit-il, de manière aussi forte combien le romancier est aveugle vis-à-vis de ses propres livres. » C'est quand même un commentaire intéressant quand on a une certaine habitude de l'écriture, de voir ce livre échapper. Il continue. Sur le point d'achever un livre, il vous semble que celui-ci commence à se détacher de vous et qu'il respire déjà l'air de liberté. C'est assez intéressant. Ouais. Et avant d'écouter le dernier morceau de musique que nous avons prévu, Armstrong, eh bien, cette phrase à nouveau, où il revient souvent sur la musique et l'écriture, j'ai toujours pensé que l'écriture était proche de la musique, mais que la musique était beaucoup plus pure que l'écriture. Alors écoutons Armstrong pour finir cette séquence sur Modiano.
Touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. And though I see the danger still, the flames grow higher. I know I must surrender to your kiss of fire. Just like a torch, you set the soul within me burning. I must go on along the road, no returning. And though it binds me, it turns me into ashes. My whole world crashing.
Nous allons nous quitter dans une dizaine de minutes, chers auditeurs. Alors, je voudrais peut-être vous recommander quelques ouvrages. Alors, Agnès, vous en avez emporté un. Je vous laisse le présenter.
Oui. Alors, j'ai ressorti de ma bibliothèque un ouvrage relativement récent. Je ne sais pas, il date de... il y a 2-3-4 ans peut-être, de l'acteur Denis Podalydès, un très très beau livre paru au Mercure de France qui s'intitule « Voix off ». Et Podalydès, il parle de manière extrêmement sensible des voix, alors les voix qui lui sont familières, les voix familiales, hein, et puis des voix de théâtre, etc., de ses maîtres. Et c'est un texte vraiment vraiment magnifique que je vous recommande. Et d'ailleurs, il commence comme ça, je vous le dédicace, hein, Michel. Est-il pour moi lieu plus épargné, abri plus sûr, retraite plus paisible qu'un studio d'enregistrement? Voilà.
Donc, très, très joli, Agnès. Alors, la maison d'édition?
Le Mercure de France.
Mercure de France. Redonnez le titre pour que...
Voix off. C'est dans la collection Traits et Portraits.
Voilà, alors ça c'est une première lecture pour vos vacances. Alors avant de vous en donner une autre, je me permets de faire un petit détour par le grand colloque de Monsartou qui aura lieu du 11 au 13 septembre sur le sujet Art, cerveau et le double. Et c'est le 25e colloque de cette association présidée par Paul Cherby qui est toujours présent, toujours vivant. Et ce colloque se fera d'ailleurs avec la collaboration étroite d'Agora Côte d'Azur. Alors je vous encourage à y aller. 11, 12 et 13 septembre, et vous retrouverez les grandes voix du colloque, dont l'une qui est la voix des voix, si je peux dire, Abit Boll, qui est un chirurgien, un phoniatre, qui a beaucoup travaillé sur la voix, et qui aura comme sujet de conférence le pouvoir de la voix et son double.
D'accord.
Oui, donc c'est très intéressant, et vous retrouverez bien entendu tous les autres, dont Boris Cyrulnik, parmi bien d'autres, et Christian Loubet, que nous avons aussi accueilli dans cette émission. Et je vous laisse découvrir les 60 et quelques personnes qui interviendront dans ce grand colloque, qui est vraiment un très très grand moment à Monsartou, mais pour toute la région. Alors, je voudrais vous parler, un petit peu en terminant, d'un auteur que j'ai découvert un peu par hasard, qui est, peut-être le connaissez-vous déjà depuis longtemps, Agnès, Irvin Yalom.
Non.
Alors, Irvin Yalom est né en 1931 aux États-Unis et il publie des livres qui m'ont beaucoup impressionné. Alors, il y en a un sur Spinoza que je trouve tout à fait remarquable. Mm-hmm. Et puis un très beau livre sur Nietzsche, parce qu'on a parlé un tout petit peu de Nietzsche. Et Nietzsche pleura.
Oui.
Et ce livre m'a profondément...
Alors, Et Nietzsche pleura, effectivement, on me l'a déjà amplement conseillé. Donc il faudrait que je prenne le temps de le lire.
Voilà. Et puis il y a un livre qui s'appelle L'art de la thérapie. Et chers auditeurs, il n'est pas fait pour les thérapeutes, il est fait pour chacun d'entre nous, parce que chacun d'entre nous est plus ou moins confronté à la thérapie, et j'ai trouvé son livre très lisible et très intéressant. Je vous donne deux ou trois citations de cet auteur, et vous allez voir un petit peu l'état d'esprit dans lequel il se situe. Pour établir une relation avec autrui, Dit-il, il faut d'abord établir une relation avec soi-même. Si nous sommes incapables d'affronter notre propre solitude, nous ne faisons qu'utiliser les autres comme des boucliers. Ou encore, et ça rejoint un petit peu l'avis de Modiano, les enfants privés d'amour maternel ne parviennent pas à entretenir la confiance minimale requise pour s'aimer eux-mêmes, pour croire que les autres vont les aimer, ou tout simplement pour aimer la vie. Mmh. Ou encore cette citation que je trouve aussi très jolie. « Depuis tout petit, j'ai toujours pensé que la vie était une étincelle entre deux néants identiques, les ténèbres qui précèdent la naissance et celles qui suivent la mort. » Et puis, une dernière citation de lui, « Il faut porter du chaos en soi pour accoucher d'une étoile qui danse. » Qu'est-ce que ça évoque, vous qui n'avez pas lu encore le livre et cet auteur?
Oui, alors Élie Tchoubera, il faut absolument que je le lise. Et je vais me le procurer incessamment. Oui. Ce sont des. Écoutez, vous me prenez un peu au dépourvu. C'est vrai que je reviendrai volontiers.
Voilà, tout à fait.
Évoquer Élie Tchoubera. J'aimerais, en revanche, simplement, je sais pas, on en parlait à l'instant avant l'émission, qu'on évoque à nouveau la figure de Marcel Conche, parce que vous l'avez reçu cet hiver.
Absolument.
Et voilà, c'est un homme délicieux. Et il faut absolument lire son dernier ouvrage.
Ah oui, Épicure
en Corrèze.
Ah oui.
Voilà. Avant qu'il ne s'éteigne, il faut rendre cet hommage-là à
C'est une image absolument très, très forte. Il a une voix qui est impressionnante. Et ce livre que j'ai lu, relu et relu m'a beaucoup, beaucoup impressionné. Il y a beaucoup de spontanéité. Mmh. C'est la grande découverte d'Épicure et au-delà d'un homme tout simple, très présent dans tout ce que nous avons parlé cette année. Et vous avez raison, Agnès, je le recommande en priorité. Mmh. Alors, je vous fixe rendez-vous, chers auditeurs, pour la rentrée. Nous allons découvrir plein de nouvelles personnes, dont Michel Serres, cette fois, qui sera au rendez-vous. Et je vous fixe un autre rendez-vous sur le site que vous connaissez maintenant par cœur et dans laquelle vous retrouverez à partir d'août des émissions qu'on n'a pas pu faire cette année, http://art-culture-education-singulier.com/. Et puis, je vous donne cette nouvelle. Au mois de septembre, nous aurons un entretien inédit avec Edgar Morin qui viendra à Cabris, près de Grasse, pour rendre hommage à Friedman qui l'a fait rentrer là, qui est un grand personnage aussi. Et nous aurons Edgar Morin en direct et de façon unique pour nous, Agora Côte d'Azur. Alors, de très, très, très belles vacances avec cette musique pour terminer. Ayez beaucoup de soleil et puis lisez, écrivez, écoutez et vous verrez que la vie est magnifique. Bon courage, bonnes vacances et à la rentrée.
Merci Michel.